10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous, très chers auditeurs. Autant vous le dire tout de suite, c'est une nouvelle période qui s'ouvre pour Le Monde ne suffit pas, l'émission d'actualité internationale de Transistor. Vous aviez l'habitude de retrouver Rémi, Thibaut et moi-même Antoine pour analyser les derniers faits marquants et interroger nos invités pour y voir un peu plus clair. Mais voilà, Rémi et Thibaut sont partis à l'étranger pour leurs recherches et je me retrouve seul pour le moment à la barre du navire. Je dis « pour le moment » car si l'un d'entre vous, très chers auditeurs, veut me rejoindre à mes côtés et me donner la réplique, il est évidemment le bienvenu. Il suffit pour cela de nous contacter. Donc pour cette nouvelle période, nous disposons désormais de divers correspondants à travers le monde. Oui, je dis bien à travers le monde car nous avons Jocelyn à Varsovie en Pologne, Thibaut et Yash en Roumanie, Rémi à Jakarta en Indonésie, Anne-Laure au Canada et Imad à Beyrouth au Liban. C'est donc l'occasion d'évoquer avec eux l'actualité brûlante qui s'offre à nous, avec un angle plus incisif et plus personnel. Pour cette première de cette nouvelle période pour LMNSP, c'est justement vers le Liban que je vous propose de décoller. Nous retrouverons Imad Ali tout à l'heure, après notre petite revue de presse. Parfois, l'actualité semble se déchaîner, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bien le cas en ce moment où un souffle neuf semble se diffuser en Afrique et au Moyen-Orient. Et ce souffle de renouveau a quelque chose de réjouissant. Oui, réjouissant car l'actualité africaine a parfois pu nous habituer aux mauvaises nouvelles et aux espoirs déçus. Souvenez-vous, dans notre émission du 20 octobre, je vous parlais du danger de guerre civile qui risquait de poindre après le référendum soudanais pour décider si oui ou non le Sud-Soudan allait faire sécession. Plusieurs organisations avaient en effet pointé du doigt le fait que le gouvernement central d'Omar al-Bashir n'avait aucune envie de perdre le Sud, qui est riche en pétrole. De ce fait, la guerre civile risquait de reprendre. Et pourtant, aujourd'hui, le résultat de ce scrutin, tenu entre le 9 et le 15 janvier, est sans appel. 99% des Sud-Soudanais ont voté pour l'indépendance, et ce, avec une participation de plus de 60%. Alors comment comprendre ce scrutin qui révèle quand même un désir extrêmement fort de la part du Sud de se couper du pouvoir central? Les raisons sont principalement historiques. Comme souvent en Afrique, le Soudan a hérité des frontières tracées par le colonisateur. Or, le nord et le sud du pays étaient extrêmement différents. Une vieille inimitié s'est instaurée depuis 1898 où les Noirs du sud avaient été pourchassés par les trafiquants d'esclaves arabes du nord. Les premiers ont ensuite opté pour la conversion au christianisme pour marquer leur différence avec l'islam des seconds. À partir de là, les deux parties du pays se sont culturellement tournées le dos et ont construit leur identité l'une contre l'autre. De 1956, date de l'indépendance, à 1972, le pays a connu une première guerre civile jusqu'à la reconnaissance d'un Sud-Soudan semi-autonome. Reconnaissance bafouée par le Nord en 1983, après la découverte de pétrole au Sud. Une nouvelle guerre civile de 19 ans allait commencer. En 2002, un accord de paix globale a été signé sous la pression des États-Unis. La communauté internationale a ensuite réussi à mettre en œuvre le scrutin du référendum dont nous parlons en ce moment. Le 25 janvier, c'est-à-dire quelques jours après l'annonce des résultats, le président Omar al-Bashir, contre toute attente, a déclaré « Nous soutiendrons le nouvel État du Sud et nous favoriserons sa stabilité car nous sommes voisins et resterons amis ». Fin de citation. C'était effectivement extrêmement inattendu car nous savions sa volonté de garder coûte que coûte le Sud. Donc finalement, c'est une partition à l'amiable qui a eu lieu au Soudan et qui met fin à deux décennies de guerre civile extrêmement violente. Cette situation est inédite en Afrique, et cela est d'autant plus réjouissant. À titre de comparaison, la Côte d'Ivoire que nous avions évoquée dans notre numéro du 8 décembre est toujours coupée en deux malgré une victoire incontestable de l'opposant Alassane Ouattara, car l'ancien président Laurent Gbagbo refuse toujours de reconnaître sa défaite. Mais tout n'est pas aussi rose pour ce nouvel État. Les accords de paix de 2002 et le présent référendum contiennent de très importantes lacunes. D'abord, la frontière avec le Nord n'a pas été délimitée, alors que d'importants gisements de pétrole sont en jeu. La citoyenneté des Sud-Soudanais, ensuite, n'a toujours pas été clarifiée, alors que des sudistes vivent au Nord et vice-versa. D'ailleurs, des affrontements ont éclaté entre l'armée sudiste et les rebelles, faisant 200 morts et 20 000 réfugiés. Malgré ce triste décompte, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on a sans doute évité le pire. Puissions-nous ne pas avoir parlé trop vite. De même, espérons que la liesse tunisienne et égyptienne, après le départ de leurs deux dictateurs respectifs, Ben Ali et Hosni Moubarak, ne précède pas l'arrivée d'un ordre tout aussi contestable. En Égypte, les ambiguïtés de l'armée laissent craindre à la population l'instauration d'un régime militaire. C'est pourquoi la place Tahrir du Caire, symbole de la contestation contre Hosni Moubarak, est longtemps restée occupée par d'irréductibles manifestants afin de maintenir la pression sur l'armée. Cependant, dimanche dernier, le travail a repris au Caire. Le musée égyptien du Caire a même rouvert. Le gouvernement provisoire a d'ailleurs reconnu un nouveau parti politique, le Wasat, un parti de centre-droit, et créé par un ancien membre des Frères musulmans. Le Premier ministre a promis la libération de 222 prisonniers par ailleurs. En Tunisie, la situation reste encore confuse. 30 000 manifestants ont demandé, dimanche dernier 20 février, le départ du gouvernement provisoire de Mohamed Hanouchi, qu'ils jugent encore trop proche de l'ancien dictateur. Mais malgré la confusion, le peuple tunisien semble toujours dans la joie de la victoire. Ironie de l'histoire, Ben Ali, réfugié en Arabie Saoudite, est aujourd'hui entre la vie et la mort. En effet, le 17 février, il a subi un accident vasculaire cérébral et a plongé dans le coma. Depuis, les rumeurs sur sa mort vont bon train sur Internet. Mais, coïncidence tragique, certains Tunisiens voient dans la date de cet AVC un signe du destin. Elle survient en effet 2 mois, jour pour jour, après l'immolation de Mohamed Bouazizi, que nous avons évoqué lors de notre dernière émission. Cet acte avait été le déclencheur des révoltes. Pour certains, l'état de santé de l'ex-dictateur apparaît donc comme une légitimation divine de la révolution de Jasmin. Cet optimisme semble d'ailleurs se propager dans le monde arabe. En Algérie, l'opposition a décidé de manifester, je cite, « jusqu'à ce que le système tombe ». En Libye, les manifestations de la semaine dernière, très violemment réprimées par le régime dictatorial du colonel Kadhafi, ont fait assez peur à ce régime pour qu'il décida de couper le réseau Internet. Le Maroc est en train, lui aussi, de voir monter la contestation. Après des grèves très dures, les syndicats du Bahreïn ont réussi à obtenir le retrait de l'armée de la ville de Manama. Et le Yémen et même l'Iran ont connu, eux aussi, des manifestations. Alors qu'après la révolution tunisienne, la presse était sceptique sur une propagation du mouvement, aujourd'hui, elle semble gagner, elle aussi, par ce vent d'enthousiasme. Pour preuve, même le journal Le Monde Diplomatique, connu pour ses éditos pessimistes, titre en une ce mois-ci « L'impossible arrive ». À l'heure actuelle, on ne peut connaître quel sera le bilan de ce mouvement qui semble s'étendre au monde arabe tout entier. Mais même si l'avenir reste incertain, quelque chose d'irrémédiable semble s'être produit et rien ne sera exactement plus comme avant. Et tout de suite, nous restons dans le monde arabe, mais nous allons le voir sous un autre angle, plus personnel. Nous décollons pour le Liban en compagnie d'Imad Ali, correspondant sur place, qui va vous présenter la jeunesse libanaise et sa fibre pour la politique.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour Imad, tu m'entends bien ?
Bonjour Antoine, bah écoute, je t'entends un peu en décalé, mais du coup, bah, je vais essayer de te donner mes petites impressions sans être trop loin, en espérant d'être un peu clair pour toi. Et tu m'entends très bien aussi.
Je t'entends très bien, pas de soucis. Donc, tu es à Beyrouth depuis un mois, c'est ça ?
Oui, donc je suis à Beyrouth depuis un mois. Il faut savoir que Beyrouth, donc la capitale du Liban, c'est une ville millénaire, mais elle est plus connue aujourd'hui par son histoire récente, donc la guerre civile de 75 à 90, et encore plus récemment la guerre de 2010. Beyrouth qui a été surnommée la ville qui refuse de disparaître, est encore à l'heure actuelle en pleine reconstruction. La ville compte aujourd'hui un peu plus d'un million d'habitants, pour une superficie de 85 km². La capitale du Liban est à l'image du pays multiconfessionnel. Il faut savoir, Antoine, que l'État comptabilise 18 confessions différentes, chacune renvoyant à des réalités sociales et politiques distinctes. La ville de Beyrouth est elle aussi divisée entre quartiers musulmans d'un côté, quartiers chrétiens de l'autre, et à l'intérieur de ces groupes existent encore plusieurs subdivisions qui font que la vie politique du Liban est difficile à comprendre lorsqu'on la regarde de l'extérieur ou lorsqu'on est à l'intérieur depuis un mois comme moi. Il y a des militaires dans la rue qu'on apprend à ne plus voir, des bâtiments complètement différents selon qu'on soit dans l'ouest musulman ou dans l'est chrétien de l'Ouest. D'un quartier à l'autre, ce sont soit des statuettes de la vierge, soit des invocations à voir que vous rencontrez dans la rue. Au centre-ville de Beyrouth, ce sont des magasins de grands coutumes italiens que l'on peut voir. Donc Antoine, je te vois, enfin, même si tu m'entends, je te vois et oublie tout de suite cette image du souffle que tu as, c'est-à-dire que tu as gardé jusqu'à présent, car celui du Liban, celui de Beyrouth en tout cas, en est bien éloigné. Tout cela sans parler des Starbucks, des McDo, des KFC ou autres Costa Café que tu peux retrouver dans certains quartiers comme à Saint-Denis. Cette campagne, tu savais qu'au Liban, la plupart des Libanais étaient parfaitement bilingues, arabes, français ou arabes anglais, voire parfaitement trilingues. Les panneaux de signalisation sont en français et en arabe, les enseignes publicitaires sont souvent en deux langues minimum. Le plus impressionnant étant lorsque tu balades dans les couloirs de l'université Saint-Joseph, où tu es actuellement, tu peux entendre des gens te saluer en disant « Hi Habibi, ça va ?» ou donc tu veux dire en gros « Comment vas-tu mon ami, ça va ?» où tu pourras voir en fait un mélange d'anglais, d'arabe et de français. Donc ça, j'avoue que c'est assez marrant d'ailleurs, ce genre d'enchaînement de phrases. Il faut aussi savoir que les jeunes sont très impliqués dans la vie politique du pays et de leur université. Donc à Saint-Joseph, le temps des élections étudiantes, les groupes d'élèves se divisent entre les différents clans le temps des élections. La ferveur qu'il peut y avoir à ce moment-là est telle qu'on peut lire à l'entrée du campus des sciences humaines de l'UFJ, le port d'armes est interdit dans l'université. Surtout, il faut savoir que les résultats sont publiés dans le journal et celui-ci précise bien à quel parti politique les étudiants sont attachés. Par l'ordre d'un tour intitulé « Décolonisation et le conflit au Moyen-Orient », la professeure a demandé à ce que les interventions se fassent loin de toute idéologie et que le travail se fasse de manière académique. Et quelques minutes plus tard, nous entendons que le concept de mondialisation est défini comme une colonisation culturelle du monde par les États-Unis. Quant à nous, pauvres occidentaux, nous n'avons pas une occasion de questionner les personnes qui connaissent les enjeux politiques de la région, sur le fonctionnement du Liban, par exemple, ou sur le conflit israélo-palestinien. L'une des questions qui revient souvent est celle de l'impact des existences européennes, car celles-ci ont fait jouer les rivalités confessionnelles qui existaient à l'intérieur de cette région, entre la promesse d'un État chrétien islamisant et celle d'un État juif, ce serait un sujet très important pour les étudiants de la région. Justement, lors de ce fameux cours sur la décolonisation, où l'idéologie ne devait pas interférer dans les interventions, un étudiant a expliqué la suite. Dans le jurisprudence entre l'Angleterre et la France, les frontières ont été définies de manière arbitraire au Moyen-Orient et à l'Afrique après la Seconde Guerre mondiale. De plus, il soutient que l'État d'Israël a été créé pour déstabiliser l'Europe, et c'est le monde arabe qui a fait l'espace. Nous voyons donc Antoine que la politique prend une place importante dans la vie des Libanais. Et les mouvements actuels qui se trouvent en arabe sont la voix de la plupart des personnes de ce pays. Donc je te donnerai ici l'exemple du départ des yeux de Hossein Moubarak. Donc on a pu voir ce soir-là plusieurs cortèges avec des personnes qui brandissaient les drapeaux égyptiens et libanais. Ce qui montre la joie des habitants des rues, voyant ce qui se passe dans le train. Et parce que quand on est jeune en soi, Antoine, figure-toi que même des parties ont un choix stratégique. Je te donnerai l'exemple du bar Le Barolac, situé à Hamra, en plein milieu du quartier Kéret. Vous pourriez accéder, tu traverses une rue avec un graffiti sur l'avenir à Israël. Et là, une de nos camarades nous fait un point historique, nous expliquant que nous étions devant un bar pro-palestinien. Et que pendant la guerre du Liban, les anti-israéliens vont se retrouver dans ce bar pour discuter de l'avenir du pays. Et aussi que nous pouvions voir ce que nous avons vu, les portraits de Yasser Arafat. Et il nous a expliqué qu'une partie de l'argent qu'on allait utiliser pour la consommation de la forêt allait être reversée à des associations qui s'occupaient du bien-être des familles palestiniennes. Donc Antoine, voici en le temps de quelques minutes en petit témoignage de moi ici, à Beyrouth, et ma première expérience près de Félix dans la future expédition de la NFL, donc en direct de Beyrouth. À vous les studios.
Donc Imad, tu as parlé de la violence du discours politique au Liban. Et justement, j'aimerais te demander de revenir un petit peu sur la situation du pays au moment où tu es arrivé, où, si je me souviens bien, il y avait des tensions avec le Hezbollah.
Donc de ce que j'ai compris, c'est que donc, moi je suis arrivé le 25 janvier et que donc, si je me rappelle bien, une semaine avant ou 10 jours avant, les membres du Hezbollah avaient quitté le gouvernement. Donc à partir de ce moment-là, la proportion, les proportions confessionnelles n'étaient plus respectées au sein du gouvernement, ce qui a entraîné sa chute. Et donc du coup, dans le quartier de Kola, le jour de mon arrivée, donc dans le sud de Beyrouth, si je ne me trompe pas, il y a eu quelques manifestations, notamment des petits pneus qui brûlaient par-ci par-là quand je suis arrivé, que je pouvais voir du taxi, et qui n'étaient pas spécialement un signe de manifestation, mais un signe de rappel de la part donc des habitants de ce quartier, si j'ai toujours bien compris ce qu'on m'a expliqué. Donc pour rappeler qu'ils étaient là et qu'ils veillaient à ce que tout soit fait, donc tout soit fait pour le mieux.
Oui, c'est assez impressionnant. Et est-ce que justement, tu parlais des idéologies qui ont l'air de s'immiscer même en plein milieu des cours universitaires? Est-ce que l'importance de ces idéologies quand même assez marquées et différentes des nôtres entraîne parfois un dialogue difficile?
Un dialogue difficile, non. Tout dépend en fait de qui on est et avec qui on discute. Donc du coup, dans mon cas, c'était plutôt simple dans la mesure où moi je rencontrais des gens qui sont souvent en français ou parlent français, notamment franco-syrien. Dans le cours, vu que ça reste encore un débat, ça reste dans le respect mutuel et ce discours est assez possible. Mais par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est au niveau de la loi libanaise, notamment au niveau des mariages en fait. Mais il faut savoir en fait que les mariages civils ne sont pas reconnus au Liban et ce sont forcément des mariages confessionnels. Donc si on veut imaginer un mariage ça doit être tout de suite difficile. Et donc certains Libanais décident d'aller faire un mariage civil à Chypre, qui lui va être reconnu par l'État libanais étant donné qu'il sera passé à l'intérieur du Liban.
Et pour revenir peut-être un petit peu, tu parlais donc de la liesse des certains Libanais à l'annonce de la chute d'Hosni Moubarak. Et donc en ce moment, les révoltes qui se passent dans le monde arabe sont au premier plan de l'actualité internationale. Concernant donc ces événements récents, est-ce que les revendications des populations arabes qui manifestent sont au cœur des débats au Liban, ou est-ce que c'est toujours la question d'Israël et de la Palestine?
Je dirais que c'est un peu des deux. Donc déjà, dans la mesure où aux informations, on parle beaucoup de ce qui se passe donc actuellement dans le monde arabe, et notamment dernièrement en Libye. Donc plusieurs personnes débattent autour de... Enfin, se réjouissent plus que débattent de ce qui se passe dans les mouvements populaires et sociaux. Donc en Tunisie, qui sont passés en Tunisie, en Égypte, et aussi qui sont passés dimanche dernier à Rabat. À ces dialogues-là se mélange aussi la question de la Palestine et d'Israël, mais toujours dans le cadre de discussions en regardant les infos ou en discutant autour de groupes. Donc on va dire que les deux questions restent, oui, au cœur des sujets de discussion politiques.
Et justement, le fait que ces événements donc soient au cœur des discussions, est-ce que ça amène peut-être les Libanais à faire des revendications de type comparable à ce qui s'est passé en Tunisie et ce qui s'est passé en Égypte?
Non, parce que dans la mesure où le pouvoir au Liban n'est pas tenu par un homme fort, par une seule personne, comme ça a été le cas en Égypte, en Tunisie, et même en Libye actuellement, les Libanais ne sont pas amenés à faire ce genre de revendications, mais plus une recherche d'équilibre constitutionnel et politique.
Donc finalement, le Liban apparaît comme une démocratie bien en place, où le multiculturalisme et le multiconfessionnalisme, finalement, marchent bien.
Marche bien, on va dire que c'est installé, et que l'équilibre est assez fragile. Donc notamment, depuis la chute du gouvernement, le nouveau Premier ministre n'a pas encore pu présenter son gouvernement, étant donné que justement les équilibres sont très fragiles et que plusieurs groupes politiques, enfin que les différents groupes politiques demandent parfois un même portefeuille. Ces groupes politiques font jouer justement la menace de quitter le gouvernement une fois établi pour faire chuter le gouvernement, remettre les cartes à plat, jusqu'à ce que chaque groupe ait quelque part, enfin, chaque groupe arrive à avoir ses revendications.
Oui, donc on voit que c'est un pays donc démocratique, mais à un équilibre fragile, et l'échiquier politique vise à, finalement à essayer de maintenir cet équilibre viable. Bien écoute, Imad, merci beaucoup de ton témoignage, et puis peut-être à très bientôt dans Le Monde ne suffit pas. Je suis désolé, très cher auditeur, la conversation et la qualité d'écoute n'étaient pas toujours aisées, mais ce sont les aléas des duplex de la France vers le Liban. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir suivi. La prochaine fois, nous retrouverons également un témoignage d'un de nos correspondants. Mais d'ici là, portez-vous bien, restez branchés sur Transistor et surtout, j'espère que jamais le monde ne vous suffira.